Bonsoir. Excusez-nous du retard, mais on va commencer maintenant. Donc, bonjour, je suis Françoise Vergès de l'Association Décoloniser les Arts. Merci d'être venue à cette rentrée de Décoloniser les Arts. Tout d'abord, on va remercier Olivier Marbeuf et son équipe de nous accueillir dans un lieu pour respirer. Alors, je sais que pour respirer, en ce moment, c'est une question extrêmement importante. Et donc, voilà, donc, nous sommes dans le lieu où nous allons respirer. Je vais vous présenter le déroulement de notre événement. Nous sommes absolument très heureuses. Vous m'excuserez, mais je mettrai tout au féminin, non pas par choix, parce que sinon, mais tout le monde est absolument inclus, les binaires, les non-binaires et tous les autres sont bienvenus. Mais enfin, voilà, merci. Nous sommes très heureuses d'avoir pu créer cette opportunité, d'autant plus que cet événement se déroule dans un contexte de reprise, des luttes qui font de l'antiracisme le cœur des luttes de libération. Qui, en affirmant au niveau global que les vies noires comptent, reconnaissent enfin le fondement séculaire de la domination et de l'hégémonie occidentale, le racisme anti-noir qui reste une force mobilisatrice. La fabrication de la mort sociale pour les personnes non blanches et d'une vulnérabilité à une mort prématurée, comme on l'a encore vu pendant la pandémie, avec le taux le plus élevé de morts parmi les communautés noires aux États-Unis, au Brésil et ailleurs, et ici dans le département du 93, où vivent le plus grand nombre de communautés racisées et pauvres, sont des constantes du capitalisme racial. Mais partout aussi, des mouvements s'organisent contre cette politique du meurtre et de la dévastation qui nous mène à l'abîme. À ces manifestations, souvent durement réprimées, s'ajoute aujourd'hui, dans ce moment de post-confinement, le mouvement pour déboulonner les statues qui célèbre dans l'espace public le récit de la domination raciale, de la guerre de conquête, de l'oppression et de l'exploitation. Ce mouvement qui s'inscrit dans la demande de décolonisation de l'espace public, mais aussi de la décolonisation et de la déracialisation des institutions universitaires, culturelles, artistiques, de toutes les institutions, comme de la démilitarisation de la police et de la violence d'État. Car tout cela s'enchevêtre et s'imbrique pour pacifier et soumettre. Nos combats à décoloniser les arts s'inscrivent dans ces mouvements. Le monde des arts et de la culture n'étant pas, à nos yeux, séparé du monde social et des luttes de libération. S'il nous a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour vous revoir et pour se revoir aussi entre nous, c'est que fin 2019, en solidarité avec le mouvement contre la réforme des retraites, nous avions suspendu nos actions, dont celles que nous élaborions dans la coordination décoloniale, où nous nous retrouvons avec les 343 racisés, la permanence et la buse, ou les séances de l'université décolonisant les arts. Nous avons rejoint en 2019, fin 2019, le collectif Le Art en Grève, qui réunissait plusieurs collectifs d'artistes, participé aux manifestations contre la réforme des retraites et à des assemblées générales de collectifs d'artistes. Nous étions dans un moment de reprise d'activité quand le 17 mars, le gouvernement a décrété ce qu'il a appelé l'état d'urgence sanitaire, dont on pourrait parler évidemment de la formulation. Nous avons été plongés à différents niveaux dans un entretemps. Mais le confinement a aussi mis à jour, de manière plus visible que jamais, non pas qu'elle n'existait pas auparavant, les profondes inégalités et injustices dans la société française et évidemment encore plus loin. Les personnes des métiers essentiels, de ce qu'on a appelé les métiers essentiels, ont dû aller travailler la peur au ventre et sans protection. Rapidement, des réunions virtuelles ont été organisées durant ce confinement auxquelles nous avons participé. Nous avons signé le manifeste « Bas les masques », Art et culture, dont le texte est consultable en ligne. Et pendant le confinement, nous avons aussi donné nos propres réunions et nous avons finalisé la relecture des textes du numéro spécial de Tumulte et imaginé puis écrit un questionnaire qui va être présenté plus tard. Au sortir du confinement, nous avons rejoint les manifestations de l'antiracisme politique, participé à des actions contre les statuts d'esclavagistes et de colonisateurs, qui sont pour nous des criminels de guerre, qui ont pratiqué le vol, le viol, le pillage, la dépossession et l'exploitation par l'esclavage et le travail forcé. C'est un mouvement, je voudrais rappeler, pour le déboulonnage des statuts, inauguré. Et je veux le rappeler parce que nous participons très souvent nous-mêmes à l'effacement et la marginalisation des luttes, de l'origine des luttes. Avec notre fascination à nous-mêmes pour les pays qu'on appelle anglo-saxons. Car le mouvement est inauguré à la Martinique le 22 mai. Et et non pas le 6 juin à Bristol en Angleterre, quand on fait tomber la statue de Colson, par un groupe de jeunes qui font tomber donc deux statues de Victor Schœlcher, geste aussitôt condamné par des élus, des intellectuels et des universitaires de Martinique et de France, mais geste que Décoloniser les Arts soutient aussitôt. Deux jeunes femmes, d'ailleurs, assument le geste face caméra. Elles disent « Nous disons à la police, à l'État, au tribunal, que nous avons fait ce geste ». L'une d'elles est d'ailleurs le sujet d'une enquête de police. Ce groupe, elles appartiennent à un groupe qui a bloqué les centres commerciaux en novembre et décembre 2019 en Martinique. Ces groupes commerciaux qui appartiennent au groupe Becquet Ayotte, qui a aussi été extrêmement important dans l'empoisonnement de l'île par le chlordécone. Et qui sont aussi ces centres commerciaux qui amènent ce qu'on appelle l'empoisonnement par la malbouffe. Et 7 jeunes Martiniquais sont en procès. Le procès est à venir. Donc nous voulons rappeler cela, que l'origine s'origine en Martinique. Le pays d'Aimé Césaire de Frantz Fanon est aujourd'hui de jeunes femmes qui, face caméra, nous disent pourquoi elles font ce geste et elles nous disent « Victor Schœlcher n'est pas notre sauveur ». En France, ces déboulonnages de statues, comme vous avez pu le voir dans les médias, a déclenché aussitôt une controverse dont nous pourrons discuter, tellement les arguments sont absurdes, mais ils sont aussi, ils font partie de ce que l'Élysée appelle les éléments de langage. Et on a évidemment de plus en plus de statues. On a aussi des arrestations, des personnes qui sont menacées, comme Franco Lila de la brigade antinécrophobie, dont le procès devrait avoir lieu le 14 août. Notre solidarité va aux jeunes Martiniquais, à Franco Lila, et à toutes celles et tous ceux qui sont censurés et persécutés pour vouloir que la justice narrative et mémorielle soit enfin ici. À ce sujet, je vous invite d'ailleurs le 5 juillet prochain à une promenade décoloniale à 14h devant le musée qu'on appelle de l'immigration. Depuis notre création en 2015, nous avons tâtonné. Nous n'avons cessé de nous interroger sur les stratégies à développer, sur la manière de transmettre et d'imaginer collectivement, sur les revendications à soutenir et les utopies à construire. La décolonisation, nous le savons, est longue et difficile. Nous en avons conscience, mais nous sommes pleines d'énergie devant les tâches à venir. Voilà donc comment va se dérouler notre rentrée. Pour commencer, notre geste de solidarité avec les femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles en lutte depuis juillet 2019. Ensuite, il y aura une présentation du numéro de Tumulte que je ferai et une lecture par Marina Montmirel et Jalil Declerc à partir d'un montage de texte qu'ils ont fait. La présentation d'un questionnaire que nous avons envoyé à des artistes et des travailleurs et travailleuses du monde des arts sur les conséquences du confinement, sur leur vie. Et donc, présentation de ce questionnaire de la synthèse par Gertie Damburi et Charlotte Tsang-King-Sang. Ensuite, nous aurons un échange avec vous et quelqu'un, je crois, qui va chanter, hein, qui va une chanson qui a été faite par ton époux, c'est ça ? C'est ça, par l'époux. Sur la grève des femmes et ensuite on danse et on chante. Alors, nous allons commencer par ce geste de solidarité avec les femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles. À Décoloniser les Arts, nous avons toujours souligné l'importance du travail de soins et de nettoyage que les universitaires appellent la reproduction sociale. Mais tout simplement, ça veut dire balayer, nettoyer, laver, prendre soin, frotter, frotter. Mais pas payer, mais pas payer. Pour le fonctionnement de la société. Si chaque matin, la journée peut reprendre sans trop se poser de questions, c'est parce que chaque matin, très tôt ou tard le soir, des femmes font des heures de transport pour nettoyer les bureaux, les chambres d'hôtel, les cantines, les restaurants, les hôpitaux, les universités, les écoles, les salles de sport, les magasins, les centres commerciaux, les gares, les aéroports, pour que nous puissions les utiliser. Mais ce travail essentiel, nécessaire, doit rester invisible, sous-payé et surexploité. Ce sont des femmes racisées, des femmes noires qui font en grande majorité ce travail. Cette division du travail de soins et de nettoyage est genrée et raciale. Parce qu'il y a aussi le travail sous-payé exploité d'hommes racisés qui contribuent à la bonne marche du capitalisme, les éboueurs, les livreurs, les vigiles. Mais à travers l'analyse du travail des femmes noires et racisées sur le soin et le nettoyage, c'est tout l'échafaudage du racisme qui est mis en lumière. Nous sommes renvoyés même à l'esclavage. C'est pour cette raison que nous avons, dès le départ, soutenu la lutte des femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles. Nous devions les honorer et les soutenir à travers un spectacle d'extrait tiré d'une pièce de Gerty d'Ambury, mais le confinement en a décidé autrement. Mais aujourd'hui, c'est avec joie que nous remettons un chèque de soutien à notre lutte. Et c'est, je crois, Rachel qui va le recevoir. Voilà, mais je crois que vous êtes plusieurs. Vous pouvez venir toutes. Voilà, et je vous engage tous à soutenir la caisse de solidarité des femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles. Il est en ligne, il est très important. Elles sont en lutte depuis juillet 2019. Et le groupe Accor, qui est un des plus importants groupes internationaux d'hôtellerie, refuse de leur accorder leur demande. C'est le groupe le plus puissant. Nous devons boycotter Accor, nous devons boycotter tous ces hôtels et nous devons soutenir la lutte. Sans ces femmes, nous n'avons pas de société. Nous ne pouvons pas sortir. Il faut que nous nous rendions compte de cela. Même nous, ce n'est pas simplement les puissants. Nous, qui allons dans un magasin, une pharmacie tous les jours, qui déposons nos enfants à la crèche, à l'école, tout cela s'est nettoyé par ces femmes. Et c'est grâce à elles que la société... Et elles sont surexploitées, sous-payées et méprisées. Donc, voilà. On est désolé de ne pas vous avoir eu cette soirée où on voulait vous honorer, vous célébrer avec une pièce de théâtre. On espère qu'on aura l'occasion de le faire. Mais on vous a vraiment, pour nous... Bravo et merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir invités. Franchement, ça nous fait plaisir parce que en ce moment, c'est vrai que depuis le 17 juillet, nous avons commencé la lutte contre le groupe Accor et la société STN parce que aujourd'hui, notre lutte, ce que nous demandons, c'est d'être internalisé et finir avec la sous-traitance. Parce que la sous-traitance, c'est la maltraitance. Donc voilà, nous sommes en lutte, mais nous avons arrêté à cause du Covid-19. Voilà, on était devant l'hôtel Ibis, c'est là que se trouvent nos piquets de grève, du lundi à vendredi, de 9h à 15h. Donc, franchement, merci. L'hôtel est fermé, parce que c'est un grand hôtel, il n'y a pas de voie, les frontières sont fermées, donc il n'y a pas de clients. Donc, pour l'instant, l'hôtel est fermé, nous sommes à la maison, grâce aux syndicats, nous sommes au syndical, et nous sommes payés au chômage partiel. Sinon, la lutte continue. Et quand les hôtels vont s'ouvrir, on fera toujours nos piquets de grève parce qu'on n'a pas encore gagné devant le groupe Accor. La lutte est rude, c'est dur. On a traversé un moment difficile sur le froid et tout, mais la lutte continue. Franchement, nous avons besoin de votre soutien. Pensez à nous quand vous êtes dans votre chambre, dans votre douche, partout. Pensez à nous. On a besoin de vous parce que sans vous, on ne peut pas faire cette lutte-là. Voilà, donc nous avons la caisse de grève, un point commun en ligne pour la caisse de grève. Et puis, bon, voilà. Merci de nous avoir invités. Je ne vais pas être long parce qu'on a plus trop de temps. Merci beaucoup.
Merci d'être venu. Nous savons que vous venez de loin, que vous venez un samedi au lieu de pouvoir vous reposer. Mais on voulait vraiment que le monde des artistes, le monde de l'art, de la culture ait conscience aussi de ces luttes qui sont pour nous au cœur aussi des nôtres. Parce que nous qui allons dans les théâtres, dans les cinémas, ou dans les musées, ou dans tous ces endroits-là, c'est vous qui les nettoyez. Donc nous devons avoir conscience de ce travail, que nous sommes ensemble dans cette lutte. Merci. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est la présentation de la revue Tumulte, qui est en vente à l'entrée. Et en fait, moi, je vais vous faire une présentation un peu générale, c'est-à-dire pourquoi une publication. Je ne vais pas parler, ça c'est Marina et Jalil qui vous en parleront. Parce que la question de la publication, elle est très difficile, on le sait, pour les racisés, pour écrire, pour la question de passer, de ne pas être simplement écrire des témoignages, voilà qui je suis, mon expérience, mais de passer à la théorie qui est toujours entre les mains de l'université et de l'université blanche. Donc ça participe pour nous à la lutte décoloniale, c'est de ne pas nous faire voler nos voix, on ne parle pas à notre place. C'est aussi de faire entendre des voix qui sont énormément marginalisées, et c'est pour ça qu'on a voulu avoir beaucoup d'artistes de ce qu'on appelle les Outre-mer, hein, c'est-à-dire ces endroits qui sont des colonies de la France encore aujourd'hui, et qui sont aussi des voix non académiques. On a voulu, et il faut aussi écrire pour laisser une trace. Il faut que nous construisions nos propres archives. Sinon, les archives sont sur nous, à propos de nous, et ce n'est pas nous qui construisons nos archives. Il faut qu'on construise nos archives de textes, d'images. Il faut qu'on les rassemble. Il faut qu'on développe progressivement nos armes théoriques. Il ne faut pas avoir peur de la théorie. Il ne faut pas se dire la théorie, c'est pour les autres. Il faut qu'on sache comment on l'écrit, comment on veut l'écrire, quelle forme, sous quelle forme. Mais nous écrivons des théories. Nos poèmes sont des théories, nos chants sont des théories, nos manifestes sont des théories. Et développer aussi une pédagogie décoloniale pour avancer. Donc voilà un peu pourquoi nous avons voulu faire ce numéro. Et nous voulions répondre à la question, mais qu'est-ce qui se fait? Pourquoi les institutions, que faire en face des institutions? Et la politique de respectabilité, qui est une politique qui est toujours offerte aux racisés. Sois respectable, sois gentil, sois bien propre, et tu auras une petite place. Et donc, évidemment, une politique à laquelle nous nous opposons. Mais les textes, vous verrez, sont vraiment de formes très différentes parce que nous avons voulu laisser entière liberté aux auteurs d'aborder toutes ces questions. Donc vous verrez quand vous regarderez. Donc avant de passer la parole à Marina et à Jalil, je voudrais remercier Sonia Diane Herbrun, qui n'est pas avec nous malheureusement, qui est la directrice de la revue Tumulte et qui a accueilli notre demande de faire un numéro spécial avec enthousiasme et bienveillance. Je remercie aussi les auteurs par ordre alphabétique, et je vais vous indiquer qui est présente, Alfred Alexandre, qui n'est malheureusement pas avec nous, Kader Atia, qui présente ses excuses, il aurait voulu, Marine Bachelot-Nguyen, qui est présente. Marine, tu te... comme ça, si... voilà, Marine. Gertie Damburi, qui est présente aussi. Safia Enjoy Live, dont je vous recommande vraiment l'article. Enfin bon, je vous recommande tous les articles, mais c'est une jeune Guyanaise qui écrit sur le Memorial Act avec une espèce de verve. Vraiment, c'est un peu... Elle prend pas de gants, comme on dit. On a trouvé ça quand même très sympathique. Fabiana Ex-Souza, qui est aussi présente. Fabiana, comme bien. Eddie Firmin, qui n'est malheureusement pas avec nous parce qu'il habite au Québec. Bérénice Amidikim, qui est présente. Bérénice. Marie-Hélène Lomounot, dont je vous recommande aussi, parce que je recommande des textes de personnes qu'on connaît moins, qui a écrit un texte sur le gros cas et les femmes dans le gros cas. C'est des choses qu'on connaît quand même un peu moins. Enfin, le gros cas, je ne sais pas qui sait ce que... Mais enfin, allez vous renseigner. Voilà. Olivier Marbeuf, qui est présent. Les 343 racisés qui sont présents. Chantal Spitz, parce qu'on voulait vraiment quelqu'un du Pacifique, qui est vraiment un endroit en général complètement mis de côté, et vraiment on voulait. Et Mireille Cyrobert qui devait être là. Ah, Mireille était là. Mireille. Voilà, et nous voulons aussi remercier Léla Kuckerman, Véronique. Ah oui, c'est vrai. Françoise On veut remercier aussi Léla Kikerman, Véronique Kerpel et Valérie Lewitt qui est présente pour leur lecture attentive et Béatrice Charrier des éditions Kimé qui nous a aussi accueillis. Maintenant, je fais place à Marina Montmirel et Jalil Leclerc pour des lectures, pour leur lecture. C'est eux qui nous ont concocté quelque chose.
Les véritables abolitionnistes sont
Bonny, Simon, Pompée, Lovinsky, Copena, Cupidon, Adou et Gertrude en Guyane.
Solitude, Delgrès, Ignace en Guadeloupe.
Eva et Anchin à La Réunion.
Dandara et Zombie au Brésil.
Kwaku au Suriname.
Kofi en Guyana.
Gaspar Yanga au Mexique.
Macandal à Saint-Domingue.
Boukman, Toussaint, Biassou, Cédé Basile, Claire Heureuse, Sanité Belair et Dessalines en Haïti.
Nani, Kujo, Paul Bogle et Sam Sharp en Jamaïque.
Boussa à la Barbade.
Tula Rigo à Curaçao.
Marcus à Saint-Kitts.
Nat Turner et Harriet Tubman aux États-Unis ou encore Sundiata Keita au Mali.
Au début de l'année 2019, les avis sont partagés dans l'association Décoloniser les Arts à propos de l'attitude à avoir face aux institutions artistiques et culturelles. Comment agir face aux institutions? Que pouvons-nous attendre d'elles? Pourquoi penser que les personnes travaillant dans les institutions seraient toutes hostiles aux questions que pose l'association?
D'une part, il y a le désir et la volonté de saisir l'occasion de présenter d'autres récits, de faire entendre d'autres voix que celles de l'hégémonie. D'autre part, une défiance née des rencontres avec le ministère de la Culture qui n'ont débouché sur rien et du silence des institutions sur des questions qui nous importent, et un soupçon sur leur capacité à surmonter, malgré une apparente bonne volonté, les entraves et les obstacles inhérents à la structuration de la culture et des arts dans un régime néolibéral, raciste et sexiste.
De ce débat est née l'idée de faire le point en réunissant des textes, en présentant une hétérogénéité de positions et d'approches. Il fallait aller plus loin dans le débat pour dépasser une posture binaire et clarifier les conditions à partir desquelles un travail avec les institutions serait possible. En d'autres termes, établir les conditions qui permettent de discuter à partir d'une position d'égalité et de respect, en refusant les dictats, en interrogeant le cadre normatif et en étant attentif à la manière dont tout le personnel est traité. Des personnes qui gardent et nettoient l'institution, aux techniciens et techniciennes et ouvreuses.
Quelles sont les formes de résistance à l'injonction républicaine d'intégration et d'assimilation dans le monde des arts et de la culture? Quelle analyse faire des politiques de diversité ou de l'appropriation des théories décoloniales dans les institutions pour mieux les pacifier?
Dès lors, le choix par genre ou par méthode ne s'imposait pas. Nous avons opté pour un sommaire suivant l'ordre alphabétique. Lectrices et lecteurs ne trouveront donc pas un fil conducteur. Cela reflète la manière dont nous souhaitons travailler à décoloniser les arts, sans certitude figée. Décoloniser les arts vous présente le numéro 54 de la revue Tumulte.
Alfred Alexandre, Le bar des Amériques.
Les îles, comme métaphore des lieux du monde que les puissances impériales trouvent intérêt à vouloir maintenir dans le chaos et la dépendance. D'un côté, maintenir coûte que coûte les pays dominés infertiles pour entraver leur volonté de liberté. D'un autre côté, consentir suffisamment de services pour que la métropole soit acceptée comme une heureuse nécessité. Hôpital bracassé, école branlante, service indolent de sécurité, boucan médiatique autour de l'action humanitaire de l'État, chaque fois qu'un cyclone ravageant nos espaces démontrait la fragilité entretenue de notre littoral impensé. Ah, y a pas à dire. Elle était au petit soin, la bête. Kader Atia, la réparation, outil d'émancipation?
Dans le monde prémoderne non occidental, la réparation a toujours été en interdépendance avec la blessure. des calebasses réparées avec des agrafes aux formes différentes, ou bien par des cordelettes liant les deux fragments séparés de l'objet cassé, laisse visible la fissure tout en donnant lieu à un jeu de nœuds sophistiqués qui forment une broderie en volume dont les protubérances rappellent les cicatrices volumineuses résultant des blessures intentionnelles des scarifications. Il existe de fait une corrélation entre la réparation des objets et des corps que les sociétés anciennes ont sublimés. J'aime l'art pour plusieurs raisons. La réparation en est une. Même si j'ai aujourd'hui conscience que la réparation, c'est aussi l'irréparable. D'ailleurs, l'admettre, c'est déjà une forme de réparation. L'art m'a sauvé la vie et il continue de le faire. C'est la raison pour laquelle je pense que l'art est une réparation. Dans mon cas, cette émancipation est possible parce qu'elle passe par le caractère réparateur existentiel, créé pour être avec les autres en restant soi-même, ni s'intégrer, ni s'assimiler, mais rester soi-même. Marine Bachelot-Nuyen, réticence à la française.
La diversité et le sujet du racisme ou du décolonial sont aussi devenus une mode et un marché. Avec tous les phénomènes de diversion et de récupération que cela implique. Et le risque d'émoussement et d'amoindrissement lorsque les questions traitées de façon superficielle, peu documentée ou peu politique sont vidées de leur substance ou de leur dimension politique. Mais à quand des artistes blancs qui aborderaient des récits sur leurs ancêtres possiblement colons ? Où sont ces acteurs de l'histoire, décidément invisibilisés du champ de la représentation ? Pourquoi omettre ces récits ? Par évitement ? Déni ? Culpabilité ? Absence de transmission ? Parce qu'il est plus noble de se soucier des victimes ? Comment raconter notre histoire commune si l'un des protagonistes brille par son absence ? Gertie Damburie, le vieux peignoir.
Plus loin, aller plus loin. Vouloir davantage que quelques miettes tombées du repas des puissants. Entrer chez eux et se servir. J'y pense souvent pour ce qui est de notre place. Artistes, philosophes, chercheurs, écrivaines racisées, nous les sans domicile fixe du savoir et de la création. Qui enfilons avec satisfaction le vieux peignoir usé qu'on finit par nous lâcher. Ce peignoir, nous l'avons si longtemps convoité sans nous poser la question de s'il convenait tout à fait à notre morphologie, à la température de notre corps, s'il s'accordait à notre désir profond, s'il convenait au déplacement que nous allions avoir, s'il ne se prendrait pas dans nos pieds, ne nous empêcherait pas d'aller ailleurs, en un lieu où le vêtement adéquat n'est absolument pas le peignoir, ce vieil accessoire de théâtre de boulevard si rabâché. Le temps a passé et je n'ai cessé de croiser la route de certaines de mes compatriotes et d'autres filles d'immigrés qui tambourinent à des portes pour se les faire ouvrir. Peut-être s'imaginent-elles qu'une fois la porte entrouverte, posée sur un fauteuil doré, le vieux peignoir serait là à leur ouvrir les bras. Sarah Enjoy Life, la supercherie du Memorial Act.
Une frise chronologique présente des exemples d'esclavage présents en Asie, en Orient et en Afrique avant l'arrivée des Européens. Cette frise apporte une circonstance atténuante aux responsables de la traite négrière avec le célèbre argument « Nous n'avons rien apporté de nouveau ». L'esclavage existait déjà. Il est indispensable de préciser que les systèmes de privation de liberté qui étaient établis en Afrique différaient totalement de celui qu'ont instauré les Européens. Par exemple, la condition d'esclave ne se transmettait pas automatiquement de parents à enfants. L'émancipation était courante, la torture, le viol et la mise à mort n'étaient pas légalisés. Les esclaves n'étaient pas considérés comme du mobilier. Ils n'étaient pas considérés comme moins intelligents, etc., etc., etc. C'est tout à fait abject de mettre sur le même plan des systèmes qui ont des fondements, des conditions et des modes de fonctionnement différents. Cette frise conduit les visiteurs non avertis à un amalgame lourd de conséquences. Dans un lieu qui est censé briller d'une vérité sans compromis. C'est inadmissible. Fabiana Exousa, du nous au je.
La fracture était donc là. Si le territoire épistémologique à partir duquel tu parles, tu énonces, ne coïncide pas avec l'espace énonciatif du monde moderne, impérial, colonial, si ton histoire ne s'inscrit pas dans la généalogie occidentale de la pensée, alors c'est que de toute évidence, tu énonces à partir d'une perspective autre, c'est-à-dire à partir de la perspective de l'anthropos, de l'autre, lequel, une fois racialisé, ne peut plus produire dans cette structure de pouvoir occidentale de la connaissance une pensée neutre, objective, et par conséquent, universel. Eddie Firmin, je, corps et art visuel, quand le corps fait trembler le savoir eurocentré.
Ainsi, mon je en tension n'est pas à prendre comme une déchirure d'artiste sous psychotrope, mais plutôt comme habité d'un tremblement ancestral, une connaissance séculaire et intime de l'entre-savoir des mondes. Ainsi, lecteur, laisse-moi jeter une parole bouillante au creux de tes yeux avant de t'expliquer quelles sont les politiques du savoir qui s'affrontent en moi depuis l'enfance, depuis mes parents et plus loin encore. Laisse-moi te dire comment l'une est devenue une sorte de politique de la connaissance cachée dans une autre. Et comment elle participe d'une altermodernité silencieuse. Toujours penser mon être avec mon corps. Bérénice Amidi Kim, désidentification.
Ce qui se joue est tout différent. Comme ce fut le cas au moment de la Révolution française, de la Commune, de mai 68, le surgissement d'un nouvel actant qui vient interroger la répartition des places et des parts dans l'espace politique en réclamant d'être traité comme un inclus, un égal et un semblable, dans un système qui jusque-là reposait en partie sur son exclusion, sa subordination et son altérisation, n'a jamais été accepté par les dominants. D'où la violence rusée d'un backlash qui combine techniques d'intimidation politique et tours de passe-passe sémantique pour cacher la domination d'un groupe social soucieux de conserver sa position de force sous les grands mots d'émancipation et d'universel. Olivier Marbeuf, les empires intérieurs.
Le compteur court maintenant. Il court en survêtement bleu pétrole et l'Assemblée le suit en haletant. Il court contre les lois de la gravité et du vagabondage qui disent qu'on ne peut rester immobile à plusieurs dans la rue. Alors, il faut sans cesse courir avant d'être saisi par la police dans une rue où l'on n'a aucune raison d'être vivant. D'être vivant avec ce corps-là. Un corps qui sait, irréductible, à la surface duquel la République a épuisé tous ses rituels de honte. Et inscrit toutes ses lois, jusqu'à la loi de la mort, dont ce corps est le compteur survivant qui dit des choses avec un souffle précaire sous la masse policière. Le compteur court et transpire. C'est sa manière de fabriquer un lieu, c'est sa manière d'en dire les histoires, d'échanger avec la nature, matière contre matière, et d'accueillir l'environnement et de l'affecter. Il courait marron. Il court maintenant banlieusard, dans le même risque de mort et la même connivence avec les mondes vivants et les paysages. Le béton est sa nouvelle nature. Il le tord par la vitesse et sait qu'il existe peut-être quelque part une danse pour soi qui va si vite qu'on ne peut la voir, qu'on ne peut l'attraper et en faire un spectacle ravissant pour célébrer l'Afrique domestique et respectable. Une danse tordue vers l'intérieur de soi, sans visage. Dans ces transactions âcres, Le compteur SU tremble et pisse, des écosystèmes d'hier et d'aujourd'hui. C'est sa manière de faire apparaître l'empire qui persiste à ses trousses. Marie-Hélène Lomuno, gros cas, histoire et enjeux contemporains.
Après avoir été définie dans la plantation esclavagiste comme refuge des impies, des mauvais nègres, après avoir été présentée après l'abolition de l'esclavage comme la praxis de l'hédonisme noir, voilà que le gros cas est perçu comme le son, la voix et le mouvement des indépendantistes. Une musique chantée et dansée indépendantiste en quelque sorte, à mettre au banc de l'art car elle serait dangereuse pour la paix sociale et pour l'idéologie de l'apaisement. L'ostracisme à son encontre se produit à diverses échelles. Interne, parce que des acteurs s'estiment plus légitimes que d'autres, mais également externe, parce que par le fait d'observateurs, de juges autoproclamés, qu'ils l'écartent autant que possible du paysage médiatique classique. Conscient de la place qu'il occupe dans l'affirmation de nos identités, les acteurs du gros cas se replient quant à eux sur les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux afin de lui accorder une digne existence médiatique. Fabienne Pourtin, notre monde a besoin de tous les imaginaires.
L'universel, dont se revendiquent bien souvent les artistes, n'est rien d'autre qu'un miroir d'eux-mêmes. De leur propre culture validée par l'institution et d'une certaine vision du monde vue du Nord. Personne ne semble s'interroger sur ce qui rend la parole artistique lointaine, qu'elle nécessite un médiateur. Personne ne semble s'interroger sur les raisons de l'absence de certaines catégories socio-culturelles dans les salles de spectacle, dans les musées, dans les lieux de culture. Le concept de diversité culturelle et de droit culturel, pris en main par certaines collectivités et certains artistes sincèrement désireux de s'adresser à tous et à tous, produisent parfois des diagnostics justes. Ils ont repéré qu'il manque des récits pour faire commun. 343 racisés, transformer la colère en acte pour l'émergence d'une scène artistique racisée décoloniale.
Ces dernières années, nombreux sont les événements qui, quel que soit le traitement médiatique dont ils ont fait objet, ont participé à la conscientisation d'une société française aux prises avec l'ambiguïté de son héritage post-colonial. Quels que soient les positionnements vis-à-vis de cet état de fait, passer la prise de conscience, s'en est suivi la structuration et l'organisation des personnes directement concernées. Du livre « Décolonisons les arts » au festival Nyansapo ou Intersection, en passant par les grévistes d'Honnête ou la lutte des Gilets noirs et du comité Vérité et Justice pour Adama, on ne peut tous les mentionner. Pour autant, on observe la multiplication de tentatives et d'éléments de réponse solidement organisés de la part des personnes non blanches qui évoluent dans la société française. Si les luttes ne sont pas toujours comparables entre elles, il n'en demeure pas moins qu'une constellation de voix s'élève contre l'impuissance, la passivité et le silence. Sans prétention, l'intention de 343 racisés et du RAD est de s'inscrire dans la contemporanéité des enjeux que soulève l'ensemble de ces voix. Mireille Tsuji.
Robert.
Mireille Tsuji-Robert, blackface au chevet du privilège blanc.
Au terme de cette recherche que nous avons menée, il apparaît que les jeunes afro-descendants, concernés près de 2000, s'inscrivent dans une dynamique autodestructrice, tributaire de l'intériorisation des stéréotypes ayant cours dans la société belge. Nous avons avancé la thèse de l'automutilation communautaire et celle du suicide noir par procuration, pour rendre intelligible l'idée selon laquelle, en s'attaquant à son semblable, le jeune noir socialisé en Belgique, en manque de reconnaissance sociale et en mal d'estime de soi, se poignarde lui-même. Son alter ego s'érige devant lui comme un miroir qui lui renvoie l'image dévalorisée qu'il a des afro-descendants, et donc de lui-même. Cette harakiri est l'une des expressions les plus extrêmes des conséquences de la dévalorisation permanente des afro-descendants, notamment à travers les folklores liés au blackface et à Jverté Piet.
Le père Fouettard.
Se donner la mort, à défaut de pouvoir apporter un changement structurel dans la société, a l'avantage malheureux de préserver le privilège blanc. Chantal Spitz, décoloniser les arts pour émanciper les esprits.
Aujourd'hui, l'éducation occidentale nous a influencés et formatés, qu'on le veuille ou non. Dans ce contexte, quelle est la place de nos cultures océaniennes dans nos sociétés et nos foyers ? Comment rendre sensible une pensée océanienne avec les outils et médiums actuels ? Il s'agit par exemple de reconsidérer l'acte de création avec nos mots et nos couleurs. Autrement dit, de déconstruire pour mieux appréhender nos modèles de développement et de saisir les conséquences induites par les bouleversements climatiques. Engagés dans une reformulation constante de la société, les artistes autochtones s'émancipent des clichés qui les réduisent à des arts sans conscience ni envergure. La revendication d'une indépendance politique ne sert de rien quand les esprits sont encore soumis à un impérialisme qui les décompose. Françoise Vergès, la terre brûle partout et les peuples se soulèvent.
Je pose la question d'une politique du regard décolonial. Quel régime de visibilité et d'invisibilité souhaitons-nous mettre en place ? Cette question est centrale pour une conception décoloniale des arts. Comment subvertir la politique d'invisibilisation sans recourir aux normes hégémoniques de la visibilité ? Il ne suffit pas d'ajouter un chapitre au récit si le cadre normatif du récit n'est pas questionné. Quand en septembre 2019, l'association Décoloniser les arts dénonce la normalisation à travers un monument des crimes de Jean-Baptiste Marchand, héros des explorations coloniales françaises, violeur et raciste, elle ne demande pas que soit ajouté un placard explicatif que personne ne lira. Mais que soit posée la question de la décolonisation de la ville. Nous circulons dans des villes saturées par des monuments à la gloire de l'histoire coloniale, où des noms de rues exaltent décolonisateurs. La ville nous rappelle à chaque pas qu'elle n'est pas non plus la nôtre, que nous n'y sommes invités que pour passer. Notre vision est troublée par ces rappels. La terre brûle. Les bourgeois se promènent dans les villes de décor. Les hommes d'affaires font des profits. Les capitalistes sont à l'affût de prochains espaces à coloniser et à transformer en marchandises. Les racistes tuent. Mais le vent se lève et les peuples se soulèvent.
Merci beaucoup et on va passer donc à la prochaine partie avec Gertie Dambury, Gertie et Charlotte. Gertie, je la vois, Charlotte. Voilà, qui vont vous présenter le questionnaire qui a été élaboré et envoyé à des artistes qui ont répondu sur les conséquences du confinement sur leur vie et les espérances et les espoirs qu'elles et ils ont. Voilà, donc je laisse la parole à Gertie et Charlotte. Ensuite, on aura un échange avec vous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là. C'est formidable de retrouver la foule et la chaleur des universités de décoloniser les arts à la colonie, dont nous espérons de tout notre cœur qu'elle rouvrira. Voilà, les temps sont durs aussi pour nos amis. Donc, mon intervention doit consister à vous dire pourquoi réaliser ce questionnaire était important pour nous. Remontons le fil du temps. DLA, Décoloniser les arts, est créée en novembre 2015. Notre première action a consisté, début 2016, à Marine, à faire un point statistique sur la présence des racisés dans les institutions culturelles. Théâtre, CDN, Centres chorégraphiques nationaux, scène nationale. Constat désastreux. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais retenez que les racisés représentaient environ 1% des responsables, directeurs de lieux, tous lieux confondus. Vous le savez, décoloniser les arts a bousculé, poussé des portes, exigé des changements. Quelques petites transformations ont eu lieu, quelques nominations de directeurs, 3 ou 4, mais surtout une plus grande présence des racisés sur les plateaux. Les questions des représentations ont été principalement abordées. La question de la représentation, des corps. Mais décoloniser les arts s'est aussi rapidement positionné sur la question du renouvellement des narrations, qu'a d'ailleurs beaucoup porté Marine ici présente. Donner la parole aux racisés pour qu'il et elle abordent des récits en lien avec les questionnements sur l'histoire des colonisations et de ses conséquences aujourd'hui sur notre quotidien, sur la manière dont est structurée de façon systémique la société française, sur ses silences, ses occultations, ses racismes, ses discriminations, sa négrophobie et son islamophobie. Toute discrimination dénoncée dans la charte même de DLA, à laquelle souscrivent celles et ceux qui adhèrent à l'association. Nous avons aussi pour préoccupation de participer aux mouvements sociaux qui ont cours dans la société française. C'est dans cette optique que nous nous sommes rapprochés d'Art en Grève, collectif regroupant quelques dizaines d'associations d'artistes réunies dans le cadre de la contestation de la loi sur les retraites. Dès le 5 décembre 2019, nous avons rejoint Art en Grève, manifesté avec elle et eux, et poser les questions spécifiques aux artistes racisés dans le cadre de cette lutte contre la réforme des retraites. La crise du Covid a représenté une nouvelle étape. Alors que la question de la précarité, de la folle précarité des artistes, était posée par Art en Grève et la coordination regroupant cette fois les collectifs d'artistes, les syndicats, Force ouvrière, CGT, Solidaires, par exemple, ainsi que les CIP, il nous est apparu clairement qu'il y avait sans doute, encore une fois, une situation spécifique, une précarisation supplémentaire pour les artistes racisés. Partant de cette supposition, avec les adhérents de DLA encore mobilisés, les pauvres, puisque les autres... il faut bien dire que c'était dur ce confinement, durant le confinement. Nous avons décidé de lancer ce questionnaire à destination des artistes racisés, mais aussi, au-delà des artistes, en direction des personnels racisés des institutions culturelles, les gardiens et gardiennes de musées, les chargés de billetterie, etc. Je laisserai Charlotte vous donner les résultats tout à l'heure. Maintenant, sur la base des réponses au questionnaire, tant les questions de finances, comment faites-vous pour vivre ? Est-ce que vous avez eu de l'argent ? Est-ce que vous avez été payé ? Est-ce que vous avez pu continuer à travailler pendant ce confinement ? Que plus largement des questions politiques sur la question de la décolonisation ? Nous souhaitons aller plus loin maintenant. Exiger que les instances, syndicats, etc., posent spécifiquement les questions relatives aux discriminations dans ces milieux. La question relative, par exemple, au harcèlement racial et religieux auquel sont confrontés ces personnels, aux milliers de petites humiliations qui viennent chaque jour s'ajouter à une situation générale de blocage et de discrimination. Nous ne sommes plus dans le même temps. Dans un premier temps, s'il a été question de rendre évident et manifeste ce que certains refusaient de voir, l'absence et la silenciation des racisés, aujourd'hui, nous sommes dans le temps d'une mobilisation des premiers et des premières concernés. Les témoignages que nous avons reçus dans le cadre du questionnaire en attestent. Nous sommes dans un temps où chacun et chacune est clairement conscient et consciente de la situation qui lui est faite, se sent autorisé à le dénoncer, mais est également déterminé à exiger des changements. Ces changements devront désormais être portés à la fois par les différents acteurs sociaux dont c'est leur rôle de défendre les intérêts de tous et de toutes. Les caisses de solidarité type SACD, les syndicats, les mutuelles, etc. Et dont il est plus que temps qu'ils affirment haut et clair qu'ils sont conscients des discriminations que vivent les racisés de la culture et qu'ils s'attellent enfin avec volonté, force et détermination à les combattre à nos côtés. Qu'on en finisse des atermoiements et des « oui, mais » à une situation spécifique, mesure spécifique. Et il nous appartiendra, à DLA, de porter le fer dans la plaie. Mais les témoignages réclament également une véritable organisation des racisés pour une plus grande solidarité, un plus important et plus régulier partage des connaissances et des savoir-faire, mais aussi une autonomisation dans la création, dans l'organisation de stages et de workshops par nous et pour nous, et une poursuite des formations de tous et de toutes autour de la décolonisation des savoirs et des imaginaires.
Merci beaucoup, Gertie. Alors, moi, je vais justement vous présenter ce questionnaire et justement revenir en un peu plus en détail et surtout vous donner des chiffres et vous expliquer la méthode qu'on a fait pour justement mieux rendre compte de tout ce qu'on a voulu entreprendre avec ce questionnaire. Donc, pour poser les bases, on a voulu faire un état des lieux, on a voulu vous donner la parole, on a voulu donner la parole aux artistes racisés, aux personnels racisés, travaillant dans les institutions culturelles et artistiques. Donc, au total, 160 réponses ont été recueillies du 15 mai au 15 juin. On s'est donné un mois à peu près pour avoir des réponses et surtout avoir une date limite aussi. Et ces 160 réponses, il a fallu ensuite les retraiter pour avoir des résultats clairs et surtout exploitables. Donc, on a choisi comme méthodologie, justement, dans un premier temps, de évidemment définir le profil des répondants et des répondantes. Dans un deuxième temps, évaluer les situations économiques, notamment les conséquences qui ont été engendrées par le confinement et la crise du Covid. Et dans un dernier temps, vous laisser la parole. Donc je vais maintenant vous révéler justement tous ces chiffres et tous ces résultats que nous avons eus. Donc concernant le profil, on a eu une grande majorité de personnes. La majorité des répondants étaient des femmes. Donc les femmes étaient très, très présentes, soit 64% des répondants, contre 30% pour les hommes et 6% de personnes non binaires. Donc la tranche d'âge aussi a vu dominer les 25-40 ans, représentant plus de 56% des répondants, suivi par les 40-60 ans de 30%. Concernant le statut et les domaines, donc on a essayé de faire une liste qui est bien sûr non exhaustive, mais néanmoins, suite à la liste établie, on a bien vu que les auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses, les intermittents et les intermittentes du spectacle étaient les plus nombreux et les plus représentés, avec 20% respectivement. Il y avait juste après les étudiants et aussi les chômeurs qui représentaient 10% respectivement. Parallèlement, on a eu un éventail assez large et représentant beaucoup de domaines de l'art qui ont été représentés, qui ont été recensés, notamment les métiers de la performance, les métiers occupant des métiers de production, plasticien, plasticienne. Toutefois, à noter, seulement une minorité de personnes occupaient des postes de direction, soit 1% seulement. Nous sommes d'autant plus reconnaissants de savoir que beaucoup de personnes travaillant, de travailleurs et travailleuses racisées dans les institutions culturelles et artistiques ont participé. 12% des répondantes. Donc, parmi ces personnes, 64% disaient occuper des postes dans l'administration, mais pas à la direction. On a aussi voulu faire un point sur la situation économique et vous donner des chiffres pour que, concrètement, nous sachions où est-ce que nous en étions par rapport à cette crise. Donc, tout a été fait sur une échelle de 0 à 5, où 0 était jugé précaire et 5 assez aisé. Donc, les résultats ont d'abord été analysés sur la totalité des répondants et des répondantes pour avoir une moyenne, puis après retravaillés dans le détail pour, selon les statuts et les domaines de travail pour définir justement quelles catégories avaient été les plus touchées par cette crise. Avant le confinement, donc l'évaluation de la situation économique du total des répondants et des répondantes, en moyenne, c'était de 2,64 sur 5. Donc vous imaginez, c'est assez, une situation jugée assez précaire en moyenne. En moyenne aussi, les répondants ont jugé leur perte de revenus plutôt élevée. Toutefois, si l'on analyse encore plus en détail, on constate que les personnes en maison des artistes ou les personnes ayant statut d'ac ou de RAC sont les personnes se retrouvant dans les situations les plus précaires avant le confinement. Concernant la perte de revenus, les personnes sans statut sont celles qui disent avoir perdu le plus. Et si l'on regarde selon le domaine, personne n'a évidemment été épargné par la crise, bien que les personnes travaillant dans le cinéma et l'audiovisuel, ainsi que travaillant la prestation technique, sont celles qui ont eu le plus de pertes. Donc tout ça, il faut en effet le mettre en perspective avec les autres questions qu'on a voulu poser dans ce questionnaire. Notamment, 77% des répondants déclarent ne pas avoir eu d'aide, 20% des répondants disent ne pas avoir bénéficié des aides que leurs collègues ont pu avoir ou ont pu bénéficier d'une baisse de salaire ou alors n'ont pas les mêmes matériels, le même matériel à la maison, donc n'ont pas les mêmes privilèges. Le rapport avec les institutions aussi a été jugé assez faible. 44% des répondants ont déclaré avoir dû arrêter totalement leurs activités. 32% ont dû soit être en chômage partiel ou subir des horaires aménagés. À ce tableau assez pessimiste, on pourra ajouter qu'une majorité de personnes déclarent ne pas avoir reçu d'aide de Pôle emploi. Et parmi les appréhensions, 22% redoutent de ne pas reprendre le travail et plusieurs redoutent aussi l'oubli du secteur de la culture après cette crise. En dernier, donc, je vais ici vous évoquer tout ce qui était le projet décolonial et justement la décolonisation. Donc, cette partie qui a été beaucoup plus qualitative et nous vous remercions énormément pour tous les témoignages que vous nous avez écrits. Donc ici, il fallait traiter donc, qualitativement. Donc, après une lecture attentive, nous avons essayé de dresser les thèmes revenant le plus souvent qui ont justement été la représentation, les représentations, le militantisme, les solidarités, la déconstruction et l'apprentissage et surtout la fin des inégalités. Quantitativement, le thème des inégalités revient extrêmement souvent, notamment dans plus de 50 témoignages écrits ouvertement. À la question de quels problèmes ont été exacerbés, la quasi-totalité des répondants ont coché « inégalité ». À ses côtés, on retrouve également la violence de l'État et son incompétence, ainsi que le racisme, coché par environ 110 personnes. D'où l'urgence d'une décolonisation par l'apprentissage, la déconstruction et des solidarités renforcées qui ont été évoquées dans les témoignages. Donc pour finir, je vais juste reprendre certains termes des témoignages qui ont été recueillis, qui je pense représentent bien tout ce qu'on vient de dire, notamment Gerti. Donc les inégalités sociales exacerbées sont aussi des inégalités raciales. Dans l'exposition au risque, l'accès à la santé, à la nourriture, aux moyens de subsistance, le libéralisme capitalisme est fondé sur une exploitation coloniale foncière, matérielle, humaine à grande échelle, qui crée aussi le désastre écologique. Pour penser la crise, il faut penser décolonial. La décolonisation des arts éveillera donc les consciences, elle va libérer la parole, diversifier les contenus, démocratiser la pratique artistique et construira des réseaux d'entraide entre artistes. Créer passera par de nouvelles manières de se représenter, se réinventer et s'approprier un regard sur soi pour être émancipateur. C'est cesser d'être invisible pour plus de liberté, plus de visibilité, plus de force, plus de créativité. Ce sera occuper l'espace qui est le nôtre pour qu'à terme, la décolonisation n'ait plus lieu d'être.
Alléluia.
Merci. En fait, je veux faire quelque chose qui n'était pas prévu parce que je suis comme ça, totalement indisciplinée. Il y a d'autres personnes qui ont participé à la conception, à la rédaction de ce questionnaire. Ces personnes, je vous demande de les applaudir parce qu'elles ont fait le travail de base qui nous a permis d'obtenir ces réponses. Il s'agit de Leïla Kukierman. Avance qu'on te voit. Léonce Henri Nland. Léonce, il se cache derrière un appareil photo. Jaline Leclerc, qui est de tous les mauvais coups. Et Charlotte Tsang, Kim Tsang.
70%.
Oh, mais merci. Et Françoise et Gerti, merci aussi beaucoup pour leur... Merci beaucoup.
Voilà,
alors là, c'est le avant qu'on passe à la musique, tout ça. On va inviter les auteurs et enfin auteureux ou auteurs autrices à venir nous rejoindre pour le débat avec la salle. Donc Mireille, Fabiana, Marine, Bérénice, 343. Qui y a d'autres ? Olivier, Gerti, Fabiana. Donc, ben, vous savez qui vous êtes. Hein. Donc, en fait, là, on vous invite à poser des questions autour de toute la revue Tumulte, mais aussi le troisième point, enfin, la troisième chose qu'on a évoquée, du questionnaire, de la synthèse et ce que nous envisageons de faire. Donc voilà, la parole est à vous et il y a un micro qui peut se promener.
Bonsoir. Merci pour cette soirée qui est très intéressante, qui est très importante. Je voulais vous poser une question par rapport au festival qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas encore lieu. Pour cause de Covid, le festival Africa 2020, et je voulais savoir votre ressenti, peut-être. C'est une question très générale, mais voilà. Merci.
Pardon, un festival, c'est une saison.
Ouais, c'est une saison. Tu veux répondre, Olivier ? Peut-être qu'on en parle un petit peu dans ton...
Ouais, moi, je fais partie de ceux qui s'est un peu moqué d'Africa 2020, donc il faut assumer. Hein. Donc, je ne vais pas non plus dire que je n'ai pas... Non, mais en fait, comment dire ? C'est pas tant l'événement, en fait, parce que bon, celui-ci ou un autre. Ce qui va se passer après cette espèce de mouvement incroyable qui s'est déroulé avec le comité Adama Traoré, je pense que ça va être une réponse du même type. Ça oppose, moi, ce que j'appelle les bons et les mauvais nègres. Ça va opposer ceux qui viennent chercher une médaille s'ils acceptent d'être le public de l'exécution des autres. Ça s'appelle le principe de respectabilité. Moi, j'ai l'impression que Africa 2020, c'est ici. C'est les gens qui sont ici. C'est l'Afrique et ses diasporas et ses histoires. C'est-à-dire que si on fait une saison Africa 2020 sans parler de la question des migrants, sans parler des travailleurs du soin, sans parler de la violence policière, moi dans mon texte je l'ai écrit, je pense que c'était en plus c'est des textes qu'on a rendus il y a assez longtemps, hein, donc je pense que justement la saveur c'est peut-être la relation qu'ils prennent avec l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui paraît évident pour un peu plus de gens en ce moment, je crois quand même, je pense que nous dans notre corps on le sent et on le vit au quotidien, donc c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouvelle mode, un nouveau mode de visibilité. Et c'est vrai que voilà, nous, on pense que si on doit parler de l'Afrique au sens large en France, on doit parler de tout. Puis c'est une célébration de la sélection comme ça, de petites, des bons élèves. Alors moi perso, je préférais dans les mauvais.
Est-ce que quelqu'un d'autre ? Enfin, pour nous, Africa 2020, c'est vraiment une opération d'impérialisme de France-Afrique, enfin de. Mais aussi ce que disait aussi peut-être dans le texte dans plusieurs textes de Tumulte, c'est-à-dire l'offre qui est faite pour assimiler, intégrer, qui est, parce que dans le manque qu'il y a d'exposition, des personnes peuvent dire oui et de se retrouver comme ça. Donc comment on va renverser cette économie ? Qu'est-ce qu'on va faire face à cette économie ? Comment on va s'y opposer ? Quelles alternatives on va proposer ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
C'est par rapport aux 160 artistes. Dans ce mois-ci, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas su qu'il y avait ce questionnaire, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a eu que 160 artistes qui ont répondu au questionnaire, en fait. Oui, enfin dans le spectacle en général, enfin c'est 160.
Bah nous on trouvait que c'était vachement. Nous on trouvait que c'était pas mal. C'est-à-dire que 160 en peu de temps, on a disposé de quoi comme possibilité de transmission, de faire circuler. Ça a été par mail à des gens qu'on connaissait, qui ont fait circuler à d'autres. Et puis par les réseaux sociaux, Facebook, etc. Les gens se sont saisis du questionnaire et l'ont fait circuler. je t'assure que franchement, moi, je n'attendais pas plus de 80 réponses en un mois. Et quand on est arrivé à 100, j'ai dit, bon, c'est pas mal, hein, 120 et 160, c'est quand on a donné un autre coup de collier pour que ça recommence à circuler et qu'on est passé d'environ 137 à 160 en quelques jours. Donc je pense que si on avait... Mais on s'était donné un mois. Parce que ce qu'on voulait, c'était qu'avant la sortie du confinement ou qu'au moment du confinement, on ait quelque chose à dire. Parce qu'on avait ces réunions avec Art en grève et qu'il y avait en particulier ce texte qui devait être signé. Et avant que le texte ne soit signé, nous voulions avoir eu les résultats, avoir analysé les résultats et avoir présenté ces résultats à l'ensemble des collectifs, des syndicats et autres qui participaient aux réunions Zoom que nous avions. Donc, en fait, nous avions entre le 15 mai et le 15 juin, le 9 juin, nous avions une réunion avec toutes ces personnes. Et c'était la dernière. Donc, avant la publication du manifeste. Donc, en fait, le 9 juin, il fallait qu'on présente quelque... Nous voulions. C'était pas, il fallait... Personne ne nous attendait. C'était nous, Décoloniser les Arts, nous avons dit, il faut que cette parole, que la parole de ces personnes, que personne n'écoute, soit présente à cette réunion Zoom du 9 mai. Que donc Françoise Vergès a présenté, puisque moi-même, j'habite désormais dans un endroit... On sait même pas, ça s'appelle là où les chiens aboient par la queue. Et donc, j'ai pas Internet. Donc, c'est Françoise, une fois de plus, la pauvre, on lui a mis ça sur les épaules. Et donc, qui a présenté ça le 9 juin. Tu vois? Mais je pense que si on a plus de force, plus de temps, etc., on aura un nombre incalculable de réponses.
Merci. Si je peux ajouter quelque chose, on ne cherchait pas à faire une étude de sondage. On ne cherchait pas à avoir un vaste échantillon. On se pose même la question chaque fois de casser les cadres et on trouve que 160 personnes qui s'expriment, c'est déjà beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas poursuivre, que d'autres personnes ne peuvent pas répondre. C'est comment on travaille toujours entre les cadres qui nous sont imposés.
Dans votre question, je comprends aussi peut-être on peut y rajouter un élément, c'est aussi qu'il faut, encore faut-il que le ou l'artiste se considère comme racisé.
Personnellement, moi, j'y ai répondu.
Non, mais se considère comme racisé, je veux dire. Vous voyez, donc ça veut dire que ça, même des gens qui peuvent le recevoir ne peuvent décider de ne pas s'inscrire dans cette. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais je veux dire, c'est une position de se considérer comme artiste racisé. On a parlé d'Afrique 2020 justement. Voilà. Est-ce qu'on décide de dire... Vous savez qu'il y a des mots, à peine on les a utilisés, qu'on n'a déjà plus le droit. Et que... Non, mais c'est très important, je crois, hein, parce que moi qui suis des artistes qui sont racisés, ou moi je les considère comme tels, il y a eu beaucoup de manifestations en lien avec, sur le continent africain, ou principalement, on va dire, sur Sénégal, Maroc, des événements où l'objectif serait d'être un artiste comme un autre. Et moi, je trouve ça hyper étrange de vouloir être un artiste comme un autre. C'est le même truc universel, c'est-à-dire, en fait, d'être un artiste blanc. Et donc, se définir comme racisé, c'est déjà dire, en fait, qu'il y a même des projections possibles à une normalisation qui ne soit pas une normalisation blanche. Moi, j'aurais été un artiste racisé normal. Donc, un artiste racisé comme un autre. Donc là, oui. Mais effectivement, cette catégorisation-là montre aussi que tout le monde ne monte pas dans le train de cette proposition-là. Et il faudra en discuter, hein. Je ne dis pas qu'il faut y monter. Mais c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger dans le nombre de personnes qui répondent à une étude adressée à des racisés.
Ma question s'adresse au collectif 343 racisés. J'aimerais savoir si vous avez constitué une compagnie. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous avez des projets artistiques ou des propositions qui vont dans le sens du manifeste que vous avez fait?
Ce qu'on a fait après la rédaction du manifeste, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés avec des membres du collectif et signataires et on a essayé de, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait... Enfin, tout à l'heure, dans la lecture, il y a la mention du RAD, qui est un peu le site du réseau artistique des coloniales, mais qu'est-ce, enfin, d'imaginer un fonctionnement et un réseau et à quoi ça ressemblerait, voilà, de... un réseau artistique décolonial dans lequel, en fait, il y aurait cette solidarité, cette redistribution de fonds, comme une espèce de mutuelle, au final, en quelque sorte. Mais non, ça n'a pas été réalisé. Enfin, ce truc-là n'a pas été réalisé. Après, ce qui a pu se passer en termes de création, bon, on a envie de faire des résidences en non-mixité, des résidences artistiques en non-mixité, pour pouvoir aborder ces questions de représentation, pour aussi pouvoir s'autoriser à se montrer en dehors du regard blanc aussi, parce que c'est quand même assez rare les opportunités de travail où on peut... moi, je sais que je fais hyper attention à ne pas me montrer trop racisée, à gommer mes expressions corporelles et même dans la pratique artistique, en fait, c'est nul. Enfin, c'est terrible. Il y a une espèce d'autocensure. Et du coup, je pense, enfin, ce qui est à venir, c'est surtout, on est en contact avec des étudiants d'école d'art, de théâtre, mais de beaux-arts aussi, où en ce moment, il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent. Il y a eu le CRAN qui a épinglé l'ENSAS. Là, il y a une élève qui a publié une lettre à l'école de l'ENSAT à Lyon. Pareil à l'école de Lausanne, etc. Et en fait, nous, on est quand même relativement jeunes. On sort de formation, plus ou moins. Et du coup, la relation à l'école et à la formation est encore très proche. Et je crois qu'on... on aimerait bien faire une espèce de rentrée un peu énervée, un peu radicale, qui pose un peu le ton vis-à-vis des lieux de formation, pour que, en fait, on se retrouve plus à soit quitter les formations, parce que c'est vraiment des parcours du combattant, quoi, parce qu'il n'y a aucune prise en charge quand il se passe quelque chose. Et du coup, là, ouais, ce sera un petit peu de monter des espèces de cellules antiracistes, autonomes, dans les formations, accompagner un peu ça, accompagner la création de collectifs. Et voilà.
Gertie, tu voulais poser une question ?
Ah, et faire une enquête aussi, justement, sur les conditions de formation des étudiants racisés, parce qu'en fait, on a plein de... on a plein de personnes qui juste abandonnent les formations, et du coup c'est quand même assez dramatique de pas aller jusqu'au diplôme, parce qu'en fait tes conditions de formation sont genre juste insupportables.
En fait je sais pas quelle question il faut poser, mais j'avais envie que Bérénice et Marine prennent la parole. Pourquoi je dis ça ? Je sais que ça va énerver Marine, pas énerver, mais surprendre. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, là où les mouvements antiracistes, avec tous leurs partenaires, hein, bien sûr, se mobilisent contre ce qui se passe en France avec les violences policières, on voit encore une fois la violence avec laquelle... La violence de la réponse qui nous est opposée. La violence des propos des policiers. On oublie ou on ne sait pas, peut-être que des gens ne savent pas, que des policiers sont allés se mettre debout devant Radio France pour dire à Radio France d'arrêter de parler d'eux en termes de violence policière. Ce sont des choses extrêmement graves dans une société qui se prétend démocratique. Et or, quand nous avons commencé à travailler à décoloniser les arts, nous avons aussi subi un grand nombre d'attaques extrêmement violentes, de choses aussi qui ont été particulièrement perverses, qui nous ont été opposées. Et ce sont ces aspects en particulier que Marine et Bérénice ont repris auxquelles elles ont voulu faire référence, puisque ça faisait plus de 6 mois ou 8 mois que nous cherchions le texte qui répondrait à ces attaques. Et c'est très difficile de trouver le texte qui réponde à ces attaques, parce que quand on leur répond, on leur donne une certaine importance. Quand on leur répond, on leur ouvre la porte pour qu'ils nous balancent encore un certain nombre d'insanités. Et je trouve que ces questions-là et que ces textes-là soient présents dans la revue Tumulte aujourd'hui et se trouvent publiés au moment où ces mouvements-là antiracistes prennent de l'ampleur et de la force, je trouve que ça me fait plaisir. Hein, d'ailleurs, j'ai applaudi tout à l'heure, ça se fait pas, mais j'ai pas applaudi aux autres textes, j'ai applaudi à un texte, je crois que c'était celui de Bérénice. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien qu'elles disent un mot, si elles veulent bien.
T'as pas le choix. Je vais pas le faire. J'ai fait allusion à beaucoup de choses, mais je pense qu'on continue et on va continuer à avoir des débats autour de cette liberté de création, où aujourd'hui cette défense de la présence dans l'espace public de ces magnifiques statues pour célébrer l'histoire de France et l'histoire coloniale et de prendre très mal que certains les éclaboussent de peinture, certains et certaines, ou essaient de les déboulonner. Encore une fois, l'espace de la création, c'est aussi un espace de négociation à soi-même en tant qu'artiste. Moi, en tant qu'artiste, je considère que j'ai une liberté de création, mais que j'ai aussi une responsabilité de création et que je dois être à l'écoute de ce qui se passe. On ne peut pas tout faire, on n'est pas tout puissant en tant qu'artiste. Ces dernières années, comme par hasard, des artistes plutôt blancs, plutôt reconnus et d'un certain âge ont un peu écrasé des voix dissidentes qui soulevaient des problématiques sur le racisme conscient, inconscient, structurel, systémique de certains actes de création. Donc moi, je reviens sur certaines polémiques dont parle aussi Bérénice dans l'article. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir des arguments fins sur ces questions de liberté de création et toute protestation n'est pas une censure. Sur ces questions aussi de circulation des références culturelles, d'appropriation culturelle. Encore une fois, il faut regarder en fait les phénomènes de capitalisation, déshistoricisation. On n'est absolument pas à dire qu'il ne faut pas que les cultures se mélangent ou circulent et que les références culturelles doivent n'appartenir qu'à ceux et celles dont on est l'exemple même de personnes d'identités multiples, croisées. Et l'identité est toujours en construction. Le débat est ouvert. En fait, l'espace aussi de la création comme espace de discussion et de négociation, c'est un espace commun où l'histoire s'invente et où l'universel réel ou le pluriversel aussi s'élabore de façon dynamique et conflictuelle, parfois.
Marine, t'as déjà dit beaucoup de choses. Peut-être que je commencerai par revenir sur cette notion de liberté de création, parce qu'en fait, je pense qu'un des problèmes est là aussi, c'est que en France, il y a la liberté d'expression. C'est ce qui cadre, en fait. Il y a des limites à ce que l'on peut dire, qui est, par exemple, si c'est raciste, si c'est homophobe. Officiellement, en tout cas, on est censé pouvoir faire taire ce genre de paroles-là. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'en France, il y a une espèce de sacralisation du statut de l'artiste. Et les débats sur la liberté de création, c'est aussi une manière déjà de un peu fausser le questionnement, comme si c'était une liberté d'expression à part, et qu'à partir du moment où c'est de l'art, c'est sacré, et du coup, les artistes pourraient plus tout dire que n'importe qui d'autre, au motif que c'est de l'art. Et je pense que ça fait partie quand même pas mal des entreprises, effectivement, que j'essaye un peu de débusquer dans l'article, des entreprises pour fausser, en fait, le débat et pour binariser en disant, du coup, oui, d'un côté, il y a les universalistes qui défendent l'émancipation, les grandes et belles idées, liberté, égalité, fraternité. Enfin, ça, a priori, je pense qu'en fait, en vrai, on est tous pour, en rebaptisant peut-être fraternité. Mais et en disant que c'est soit ça, soit les petites boutiques de l'identitaire. Hein. Je crois que ça, c'est une expression de Tania de Montaigne, enfin, qu'on a aussi chez Finkielkraut. Enfin, comme si c'était l'un ou l'autre. Et je pense qu'en fait, la notion de liberté de création, elle vient un petit peu renforcer ce clivage-là. Et l'idée, bah, c'est de dire que qu'est-ce que ça masque, en fait. Et puis, est-ce que ça masque, bah, c'est avant tout le rapport de force. Et le fait que, y en a qui sont avant tout... de plein pied dans l'universel, et puis qu'il y en a d'autres qui sont de toute façon déjà pré-identifiés. Racisé, c'est jamais d'abord une qualification qu'on vient joyeusement se donner à soi-même, c'est d'abord une qu'on subit, et à force de la subir, on se dit, je vais peut-être en faire quelque chose, y compris d'ailleurs pour après pouvoir m'en libérer et me dire que je me définis pas que comme ça parce que je suis mille autres choses. N'empêche que dans la vie, dans l'espace social, et quand même aussi souvent sur les plateaux, dans les spectacles, dans les représentations, je suis assignée à ça, et comment ça devient un processus d'émancipation, un outil d'émancipation, sachant que ouais, la base, c'est que on est tous égaux, mais certains plus que d'autres, quoi. Et aussi, on est tous libres, mais certains plus que d'autres. Voilà.
Moi, je voudrais aussi, donc, du coup, peut-être que Mireille dise quelque chose, parce qu'en Belgique, il y a eu énormément de mouvements, aussi de déboulonnage de statuts, autour, évidemment, du criminel Léopold II. Et puis cette question de blackface que vous avez beaucoup plus en fait attaquée, même de manière beaucoup plus directe. Et donc, ce que tu pourrais dire rapidement, enfin, autour de ça, parce que aussi pour je le redisais un tout petit peu, pour qu'on soit pas franco-centré, même dans nos luttes.
Mais on vous aime beaucoup, hein. On vous regarde à la télé et on admire votre franc-parler. On admire le fait que, on dit, mais les Français se clashent à longueur de journée, à longueur d'émissions télé, et puis le lendemain, ils reviennent, les mêmes intervenants se clashent encore. En Belgique, c'est pas comme ça, hein. Ah oui, on connaît bien notre blanc à nous. Si tu lui fais perdre la face dans une émission télé, c'est fini, tu ne seras plus invité. Donc on a un contexte dans lequel où il faut dire les choses, mais de manière à pouvoir revenir encore pour aller plus loin. Et c'est un exercice très difficile. D'ailleurs, dans certaines négociations politiques, on n'en voit que des femmes, avec beaucoup de rouge à lèvres et des grands sourires, pour essayer de faire passer les choses. Mais bon, là, sur les déboulonnages de statues et sur le blackface, on a quand même décidé de prendre un ton qui est qualifié de vandalisme, qui est qualifié de ton trop dur, etc. Parce que sur certains points, et après George Floyd aussi, après le meurtre de George Floyd, il y a eu un ras-le-bol au niveau belge. 60% ce qu'on appelle les post-coloniaux, donc rwandais, congolais, burundais, qui ont été colonisés par la Belgique, 60% d'entre eux ont fait des études supérieures. Et contre 33% des belgo-belges, comme ils aiment les appeler. Pourtant, on est 3 à 4 fois plus nombreux sur les bancs du chômage. Et les métiers techniques aussi, on est là, mais on est plus nombreux sur les bancs du chômage. Donc du coup, à un moment donné, on a eu une génération qui disait « Oui, mais on n'est pas chez nous, on va rentrer. » Une autre génération qui disait « Mais c'est pas grave, il faut pas s'offusquer. » Et puis, il y a des cas comme Dieu merci Kanda qui va à un commissariat de police pour déclarer la perte de sa carte d'identité. Le lendemain, il en ressort mort. On sait pas, y a pas les caméras, il n'y a pas d'image, les témoins ont disparu, sa femme, on lui a demandé de ne pas venir le chercher. Enfin, on se rend compte que la violence policière, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement aux États-Unis, on l'a vu aussi chez nous, en Belgique. Sauf que il y a une omerta qui fait qu'on arrive à museler les militants. Je reçois des lettres de menaces de mort chez moi. De colons, de fils de colons qui ne veulent pas qu'on, tout simplement que l'on parle, ils ne veulent pas qu'on passe dans les médias, etc., un peu comme les policiers qui vont faire des standings. Donc là, on a des personnages très caricaturaux, comme le sauvage Date. C'est le sauvage donc, de la ville Date. C'est un grand monsieur qui est tout grimé en noir avec des chaînes et qui crie, qui gueule pendant tout le folklore pour faire peur à tout le monde et aux enfants y compris. On dit que ça, c'est les Noirs. Et donc, je vous remercie de m'avoir invité à écrire donc, dans cette revue pour décoloniser les arts, parce que là, j'ai fait cette recherche avec des amis. On a montré à quel point, en fait, c'est un écolage raciste. On apprend aux enfants blancs, noirs, arabes et autres, comment est-ce qu'on devient raciste et à intérioriser ça. Et justement, dans la partie que vous avez lue tout à l'heure, ben, on montre que ça nous mène en fait à un suicide communautaire. Les gens préfèrent se donner la mort, que ce soit la mort physique, puisque les jeunes se sont entretués entre 2002 et 2019. On a eu beaucoup de décès. Il y a eu beaucoup de suicides aussi de jeunes. Et puis, bah, c'est aussi des morts sociales. Et ça, on les connaît toutes, des renoncements de carrière, d'affection, etc. Donc, et je suis contente de pouvoir venir ici aussi en Belgique. Je vois là des têtes connues, Madame Obolo. Je suis très contente de parce que c'est pas facile, en fait. Intimement, au quotidien, on fait tout pour vous séparer, pour que vous soyez en dispute aussi entre militants. Et comment est-ce que, quelque part, tout ce racisme atteint aussi les militants qui se mettent en concurrence là où il ne devrait pas y en avoir. Et donc, ça fait du bien de vous voir tous là.
Et je voudrais juste rajouter une chose par rapport à la Belgique. J'ai regardé cette semaine un plateau télé, l'émission Mon Désart, avec quatre artistes racisés, alors dont je ne me souviens plus les noms à part Priscilla Haddad, Ellie, qui réagissaient au fait que dans un prix prestigieux, il n'y avait aucune nomination ou quasi aucune nomination d'artistes racisés. Et je trouve que leur prise de parole là, pendant une demi-heure est extrêmement punchy et pas du tout polissée, comme vous sembliez le souligner. Et souligner aussi, alors peut-être un signe, qu'il y a une femme racisée qui a été nommée cette semaine à la direction d'un théâtre à Bruxelles, Cathy Minjung. Et voilà, c'est pas du tout encore arrivé en France.
Alors, moi, je voudrais aussi donner la parole à Fabiana, parce que, oui, je sais qu'il y a des questions, mais aussi parce qu'il y a la question, une des questions qui a été posée dans le questionnaire, enfin, de demande, c'était la question des artistes étrangers et de toutes les questions que ça pose, de résidence, de bourse, et que ça doit rentrer aussi dans nos demandes. Et puis aussi que Fabiana vient du Brésil, qui est dans une situation absolument catastrophique, on le sait aujourd'hui, et qui est de génocide à travers la crise du Covid, où ce sont les communautés noires et pauvres qui sont simplement... On les laisse mourir. Il n'y a pas d'autre mot. Mais aussi dans tout le travail qu'elle fait de traverser tout ça et de le faire dans une université en France, que je trouve très courageux.
C'est sûr que c'est courageux. C'est déjà pas ma langue de base, donc j'ai dû apprendre le français pour pouvoir être là. Mais quelque part, ça m'a ramené de plus en plus vers l'Afrique. Parce que justement, là, quand je vois toutes ces mesdames devant moi, là, aujourd'hui, ben, je me sens chez moi, parce que c'est le même visage. C'est comme si j'étais au Brésil. Et c'est cette rupture, en fait, qui est important d'essayer de comprendre. C'est que la quantité de personnes, des cultures, des vies qui ont été transportées pendant la traite négrière ont été d'une importance phénoménale. Donc, au Brésil devient aujourd'hui le pays le plus noir depuis l'Afrique, enfin, en dehors de l'Afrique. Donc, on a, j'ai l'impression, avec la diaspora que je rencontre ici, encore un travail à faire. C'est un travail de se rendre compte que l'Afrique a été effectivement, à un moment de l'histoire, partagée en deux, et l'autre moitié, aujourd'hui, elle est au Brésil. On a encore un travail de reconstruction et des liens à mettre aujourd'hui en place à nouveau, à se reconnecter. Donc pour moi, c'est une fierté d'avoir appris la langue du colon français. Bon, on parle la langue du colon portugais là-bas. Donc ici, quelque part, au moins, ça me permet d'avoir ces liens avec vous, de reconstruire ces liens, et que j'espère que ça soit de plus en plus long et une longue vie. Et donc, oui, au Brésil, effectivement, c'est une situation très catastrophique, en fait. Il faut dire que déjà, quand on parle des morts des jeunes assassinés noirs, on est assassiné là-bas à chaque 23 minutes. Donc, un jeune noir est assassiné au Brésil à chaque 23 minutes. Je ne cesse pas de répéter cela parce que pour moi, c'est une information très importante. Il y a eu un article qui est sorti là dernièrement qui dit « Le Brésil, c'est les États-Unis puissance 10 ». qui démontre très clairement que c'est quand le visage, quelque part, quand les écrans du monde se tourneront vers le Brésil, on va réellement comprendre la puissance de mort qui est ces projets coloniaux modernes. C'est une puissance de mort énorme qui va envers les Noirs, mais aussi envers les populations amérindiennes. Ce projet, il n'est pas nouveau, il a été déclenché avec une idée de projet moderne. Nous le connaissons tous, peut-être ici, j'espère bien. Et voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est au-delà de se rendre compte de notre mort, c'est rendre aussi compte de notre puissance de vie. C'est de dire qu'à partir d'une puissance de vie, on peut reconstruire nos protections psychiques, nos possibilités d'être en lien et de se dire qu'on a une histoire de lutte qui a déjà démarré depuis des siècles. Au Brésil, nous avons les quilombos. Les quilombos, c'est les lieux qui ont été créés par les marrons, que vous appelez ici. Nous, on appelle quilombolas. C'est les Africains qui étaient en condition d'esclavage et qui réussissaient à s'enfuir et qui ont combattu la domination portugaise pendant plus de 200 ans. On a un leader qui s'appelle Zumbi dos Palmares, qui est très connu et qui a été l'un des leaders qui a combattu les Portugais, qui a créé les quilombos, qu'on appelle Quilombo dos Palmares. Ça a été vraiment une société alternative créée au centre du Brésil où plus de je ne sais pas combien de personnes ont réussi à s'émanciper et à se libérer du projet colonial de la mort et qui ont su développer à nouveau leurs moyens de se développer psychiquement, mais aussi émotionnellement, physiquement, etc. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire quelque part dans ces textes, à la suite de l'invitation de décoloniser les arts, c'était d'essayer de construire ces ponts-là, c'est-à-dire comment, effectivement, moi, qui suis brésilienne, afro-brésilienne, devenue maintenant française, donc comment je circule dans cet espace et comment j'ai fait en sorte de que ma parole soit entendue ici, mais qu'il puisse aussi avoir une résonance avec mon histoire, avec quelque chose qui se passe effectivement chez moi. Donc dans mon texte, j'essaye de faire ces liens entre mon expérience de vie en tant que doctorante en art en France, ce qui est très rare, hein, il faut le dire. Peut-être que je serai la première ou peut-être la 12e ou la 3e doctorante en art formée au Brésil, ce qui ne veut rien dire, effectivement, dans le sens où il y a beaucoup de femmes noires émancipées qui ont décolonisé les arts depuis des générations, dans les quilombos, dans les candomblés, dans les religions afro-brésiliennes. Mais ça veut dire que dans l'institution académique, on peut prendre la parole pour faire en sorte qu'on développe à nouveau une grammaire, un système de langage pour que les jeunes, la prochaine génération, ils puissent être plus libres, moins ce qu'on appelle l'épistémicide, quoi. C'est-à-dire une mort que, quand tu essayes de développer une pensée, tu es déjà arrêté. Déjà ici en France, on se dit, quand je suis arrivée, je voulais travailler sur certains sujets, ils m'ont dit « Ah, mais ça, c'est pas de l'art ». On va te mettre dans l'ethnologie, on va te mettre dans la sociologie. Donc déjà, comment tu fais en sorte de créer ton espace au sein de cette académie pour ouvrir pour les générations à venir? Parce que bon, la nôtre, on est encore en train de demander des choses très précaires, hein, à ne pas nous tuer, à rester en vie, à respirer. Donc c'est un travail qu'on est en train aujourd'hui de mettre les germes, les graines, les petites bases encore pour générations. On continue un travail qu'on voit très clairement qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc ce travail-là, c'était plutôt d'essayer de construire ce pont entre cette histoire afro-brésilienne et qu'est-ce que cette histoire afro-brésilienne est là aussi à dire à la France et à dire à ce qu'on appelle cette pluriverselle qu'on essaie de construire aujourd'hui. Merci.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais seulement une remarque à faire par rapport à la question de la publication ou des ressources, des sources disponibles. Et c'est parce que j'ai récemment participé à un atelier Wikipédia. Bon, vous connaissez les ateliers Noircir le Wikipédia. Mais je me suis rendu compte que le Wikipédia était vraiment un lieu à décoloniser. Parce que là, si vous allez, par exemple, sur l'article « Études décoloniales » de Wikipédia, quand vous allez sur la catégorie France, alors Wikipédia, là, comment j'ai appris comment ça a fonctionné, c'est que pour que l'article soit validé, les sources, il faut que les sources soient validées par la communauté Wikipédia. Et souvent, ce sont des journaux nationaux. Et pour la question France, études décoloniales, l'article est validé par les articles des journaux Marianne ou Le Point. Donc, vous pouvez imaginer dans quel sens a écrit la question décoloniale pour France, la France. Et je me disais que, en tout cas, le Wikipédia pouvait être c'est un outil où chacun peut s'emparer. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'article études de coloniale France, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire et d'apporter des sources contradictoires à celle de Marianne ou de l'Obs. Voilà. Donc c'était juste cette remarque-là que je faisais.
Merci. Je pense qu'on va peut-être un peu passer à la prochaine, aux danses et musique, comme on dit. Mais je voulais juste revenir entre ce que Fabiana et Anaïs disaient, c'est-à-dire la question des écoles, qui est vraiment importante, parce que nous aussi, on reçoit des étudiants qui n'en peuvent plus, qui partent, qui sont... Et que c'est vraiment, vraiment... Donc, on doit s'occuper de ça, parce que c'est là que des jeunes arrivent avec un espoir et qui sont cassés. Elles sont cassées, ils sont cassés. Et que ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que ça fait partie, évidemment, de la politique de pacification et d'écrasement et de soumission, de ne pas pouvoir développer d'imagination, de ne pas pouvoir partir sur des chemins qu'on n'a pas parcourus, d'ouvrir, quoi, de se laisser aller, quoi, d'ouvrir. Et que ce cadre fait partie du racisme. C'est un cadre raciste, épistémique, comme tu dis, c'est-à-dire d'empêcher que des deux formes, et ça on veut beaucoup travailler à Décoloniser les Arts sur la question d'expérimentation, d'expérimenter les formes, de sortir de ce qu'on... C'est-à-dire de ne pas simplement s'opposer à ce qu'il y a, c'est-à-dire de ne pas dire on voudrait réformer ce qu'il y a, on voudrait changer, mais d'imaginer nous-mêmes ce que ce serait nos institutions, enfin, ou nos centres, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on... Et c'est très difficile, en fait. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Donc, pas simplement dire il y a qu'à, etc. C'est vraiment de s'y mettre, de se jeter là-dedans, dans cette aventure, et d'imaginer. Et donc, de traverser tous les obstacles qu'on nous a mis, de traverser les choses qu'on a dans la tête, vraiment, et de nous y aller. C'est-à-dire de sortir aussi du frontal, de sortir du face-à-face, de constamment leur dire « mais vous ne faites pas ce qu'il faut ». Il faut les laisser tomber, leur tourner le dos et faire ce que nous avons à faire. Ça va pas être, et c'est vraiment un énorme travail. Donc, ça fait partie des choses qu'on veut aussi développer. On avait pensé, avant le confinement, tout ça, de développer ce qu'on appelle l'expérimentation, ces ateliers, ces choses où on explore, en se permettant des erreurs et des avancées et des reculs. Mais au moins, on se permet ça sans un regard qui nous dit « c'est pas ça qu'il faut faire et vous n'aurez pas le diplôme ». Donc, ça, c'est vraiment une chose qu'on veut vraiment.
Aussi, peut-être la relation entre activisme et monde académique.
Oui, mais ça, alors, je ne me lance pas là-dedans. Ne me lance pas là-dedans. Par contre, maintenant, il est où ton chanteur ?
Je vais le chercher.
Non, parce que là, donc, il s'appelle Gobor. Parce que Bobby. Donc voilà, on va écouter Bobby, qui a donc fait une chanson, c'est ça ? Qui a composé une chanson pour vous ? C'est ça ? D'accord. Donc voilà. Et puis après, on va pouvoir... boire, se restaurer et bavarder. Comment vous voulez ? Alors, c'est ça ? Les bébés afro, c'est ça ? Donc on a Bobby avec les bébés afro. C'est elle qui ont choisi. C'est le nom qu'elles se sont donné. Voilà.
J'ai technicien de surface, se lève à 5h pour aller faire le ménage. Mais je vois que certains ne les considèrent même pas. Pourtant ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux.
Frotter, frotter. Merci, elles ont pris l'argent. Elles ont... Ça a réussi. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci beaucoup, merci.